longtemps à venir, jusqu'à cet instant où j'entreprends la rédaction définitive, mon projet fut d'écrire à la troisième personne, dans le dessein de mieux garder mes distances. J'ai renoncé, craignant de sembler affecté. Je reste du moins décidé à tenir l'écart. Tout de suite, ce point capital, je ne raconte pas ma vie. Il est convenu que je n'exhiberai dans cette égo-histoire qu'une part de moi, l'égo-laborator, si l'on veut, ou bien l'égo-faber. Parce que je ne parle pas de peinture, par exemple, ni de théâtre, ni de musique, parce que je ne dis rien de ceux que j'aime, il est bien évident qu'ici, l'essentiel est tu. Je vais donc parler de ma vie publique, tentant de montrer comment ce qu'on appelle une carrière s'est déroulé durant une phase courte de l'histoire générale. On croirait cela simple, ça ne l'est pas, car j'ai bien dû, à tel ou tel moment, m'accommoder, biaiser, me faufiler, prendre la place d'un autre. Comment ne pas me donner le beau rôle, ego faber gloriosus? Tout historien s'exténue à poursuivre la réalité. Cette proie toujours lui échappe. Je me juge près de la saisir quand j'essaie d'établir ce que fut la bataille de Bouvines ou celle d'Austerlitz. Mais si je cherche à découvrir comment les hommes aimaient ou croyaient aimer au XIIIe siècle, je la vois déjà s'éloigner. Et la distance s'élargit encore lorsque je me risque à relater mes aventures professionnelles, m'adressant non pas à des êtres qui me connaissent, qui me sont chers, mais à des gens que je n'ai jamais vus et dont la plupart liront rapidement ces pages. Nul ne parvient aisément à ordonner sa propre mémoire. Comment se dire? Ce sentiment que j'ai d'impuissance est pénible. Aussi suis-je très fortement tenté de truquer, persuadé d'ailleurs que, sans en être conscient, je truque, que je bricole mes souvenirs, qu'ils sont d'eux-mêmes bricolés tandis que je menais ma vie. J'appelle donc ceux que cette histoire intéresse à porter sur ce qui suit un regard circonspect.